J'ai été pas mal logique aujourd'hui. C'est une chronique environnement, fait que j'ai invité un biologiste. D'ailleurs, vous commencez à le connaître de mieux en mieux. On est avec Pierre-Étienne Drolet. Oui, il est biologiste, mais il est également coordonnateur de projet au COBALI. Pour ceux qui ne connaissent pas encore le COBALI, c'est un organisme qui s'occupe de la gestion intégrée de l'eau du bassin versant de la rivière du Lièvre. Et bonjour, tout d'abord, je m'en allais. Moi, j'étais parti, Pierre-Étienne. Comment ça va?
Ça va très bien, toi?
Ça va super bien. Aujourd'hui, tu vas nous parler de, je vais dire comme ça, une des spécialités du COBALI, parce que vous passez beaucoup de temps à vous soucier de ça. On va parler de la fragilité des milieux aquatiques.
Oui, puis avec un petit accent sur les poissons qu'on aime bien. Hein?
Oui.
Pour commencer la chronique, je vais te poser une question toute simple. Okay. Si je te donne le choix de respirer l'air d'une des plus grandes villes du monde, disons en Chine, mettons, okay. ou te baigner ou boire dans la rivière qui traverse cette même grande ville-là, qu'est-ce que tu choisirais?
Aïe, aïe, j'ai l'impression que c'est une double dose d'angoisse. T'sais, tu m'as dit « je vais te poser une question simple ». Je me suis mis angoissé, je me suis dit « j'aurais peut-être pas de réponse ». Là, clairement, écoute, je suis convaincu que l'air en Chine, c'est assez ordinaire, merci, mais j'irais clairement pas me baigner dans une rivière en Chine. Clairement pas.
C'est un peu la réponse de tout le monde. Hein. C'est que l'eau des lacs et des cours d'eau, c'est le reflet direct des activités humaines. Puisque la pluie qui ruisselle sur le territoire, ça emporte vers les cours d'eau tous ces polluants-là. Donc, les poissons baignent littéralement avec pas mal tout ce qui vient de nos activités. Des sédiments, des pesticides, de la caféine, des hormones, des microplastiques, du liquide de la lave-glace de voiture, pourquoi pas du sel de voirie, des huiles, de l'essence, des eaux usées et bien d'autres qu'on n'aimera pas toutes.
OK, je vais t'arrêter avant que tu fasses trop mal parce que c'était pas correct d'amener la caféine là-dedans. Il n'y a rien de mal à la caféine, OK, c'est correct? Bon, non, mais... OK, donc visiblement, ça vaut la peine là, qu'on accorde une grande importance à la protection du milieu aquatique.
Ben oui, parce que la pollution de l'eau a souvent des répercussions, en tout cas un peu plus directes sur les espèces aquatiques que la pollution de l'air, mettons, peut en avoir sur les espèces terrestres. C'est, par exemple, on connaît quand même plusieurs espèces aquatiques qui vont disparaître parce que le cours d'eau est pollué. Exemple, ouais. La truite mouchetée, là, qu'on en parle souvent. Tandis que c'est un petit peu moins le cas avec la pollution de l'air. Je ne dis pas ça là, pour minimiser les problèmes là, environnementaux de l'air ou du milieu plus terrestre, ouais. Mais c'est juste que le milieu aquatique, c'est un petit peu plus fermé, c'est plus limité que l'atmosphère, mettons.
Oui.
Donc, les polluants ont tendance à se concentrer plus facilement dans l'eau, surtout quand c'est un petit cours d'eau, évidemment. Puis, les organismes aquatiques, en plus, on le sait, hein, souvent, ils ont une peau là, qui est assez perméable puis ouais. qui laisse passer assez facilement les polluants, plus que notre peau à nous, par exemple.
OK. Mais là, ils sont OK. Oui, d'accord, ils sont sensibles à la pollution. Là, ça, c'est assez évident. Mais je vais essayer. Là, j'embarque dans un jeu dangereux. Je vais essayer d'interpréter ce que tu m'as déjà dit dans d'autres chroniques, puis tu me corriges si j'ai tort. On a déjà parlé dans une ancienne chronique, en fait, on en a parlé quelques reprises, que si on déboise trop les rives des petits cours d'eau, entre autres, ce qui arrive, c'est qu'on enlève de l'ombrage. Donc, logiquement, l'eau va se réchauffer, ce qui est pas bon pour une multitude d'organismes, j'imagine, mais entre autres pour les poissons, parce que ça vient modifier, un, la température, mais l'oxygène.
Ben c'est ça, tu as bien retenu ta leçon parce qu'on l'a dit plusieurs fois là, qu'effectivement l'eau chaude, ça réduit l'oxygène. Donc, quand on dit que le milieu aquatique est très fragile, c'est un équilibre là, qui est assez sensible. Puis, comme tu dis, là, juste l'oxygénation qui est dépendant de la température, c'est un autre point qui n'est pas de la pollution directe, mais qui est quand même assez facilement bouleversé par nos activités. Puis, si on continue avec les poissons dont on dit qu'ils baignaient dans nos activités,
ouais.
En plus de ça, ils sont confinés aussi souvent à un certain milieu, hein, parce qu'un poisson, ça a une limite de ce que ça peut franchir comme obstacle. Là. On connaît les saumons là, qui sautent les chutes, mais c'est pas tous les poissons qui peuvent sauter des grosses chutes non plus. Fait que si on prend l'exemple des lacs de montagne, souvent, c'est des milieux qui sont assez isolés, assez coupé du reste des lacs et des cours d'eau. Fait que si on ne fait pas attention à ce qu'on déverse là-dedans ou à la quantité de poissons qu'on pêche, c'est assez facile d'épuiser la ressource parce que c'est des milieux qui sont comme isolés, là.
Tu as comme voulu être un peu d'époque. Tu nous as parlé de confinement. C'est correct, je l'ai laissé passer celle-là. Mais en même temps, ça peut être un problème parce que j'imagine qu'il y a plein d'organismes qui sont contents d'être au même endroit tout le temps, mais entre autres, les poissons, je pense qu'il y en a que, disons, entre guillemets, pour se reproduire et puis pour que les œufs puissent éclore, il faut qu'ils changent d'endroit, non?
Et en plus, c'est ça. Donc, il faut protéger un peu tous les habitats parce que les poissons sont. Par exemple, les poissons d'un lac vont aussi utiliser souvent les ruisseaux qui se jettent dans le lac, là, entre autres pour se reproduire. Fait que, donc, il y a toute une fragilité qui est à prendre en compte, qui est particulière pour les milieux aquatiques. Puis, ça concerne aussi les activités qu'on fait, là. On en a parlé souvent. Exemple, là, les fameuses vagues qu'on peut faire avec des gros bateaux près des rives ou dans des secteurs qui sont pas profonds, là, qui va remettre les sédiments en suspension dans l'eau. Puis, on peut parler aussi des quads, entre autres, là, qui circulent dans les cours d'eau. Ça aussi, ouais. C'est un problème. Là. On l'a vu même en Gaspésie, là, il y avait des gens qui faisaient du quad dans des rivières à saumon. Là. Malheureusement, il y a encore bien des gens là, qui se comportent sur l'eau un peu comme si on était sur une route asphaltée, là, alors que dans le fond, on est dans un habitat, même des fois dans des frayères où des poissons ont pondu leurs œufs. Puis des œufs de poissons, mais Patrick, on nous dit depuis qu'on est petit que c'est bien fragile, les œufs.
Ben oui.
Imagine-toi des œufs de poissons, pas de coquilles, c'est assez fragile à ton goût.
C'est clairement très fragile. Ben oui, c'est délicat, c'est sûr. Là, je vais te prendre un petit peu au dépourvu. Fait que si jamais c'est pas le bon moment, c'est correct, on se gardera ça pour la prochaine fois. Sauf que moi, des fois, quand tu parles, visiblement, je prends des notes. Et la dernière fois, tu nous avais dit qu'on allait éventuellement revenir sur les réservoirs, tu sais, et aussi de la variation des niveaux d'eau, là, tu sais. Il n'y a pas juste la qualité de l'eau. J'imagine que quand le niveau d'eau change beaucoup, ben ça peut changer des choses aussi. Ça a un impact quelque part.
Oui, bien sûr, si on abaisse, exemple, on abaisse beaucoup le niveau d'eau, c'est sûr que ça va avoir un impact. Puis un des plus connus, c'est la difficulté pour le touladi, qu'on appelle aussi la truite grise.
C'est plus le fun, le touladi. C'est plus le fun.
Ça sonne mieux. Hein?
Ouais.
C'est lui, ce poisson-là, il a bien de la misère souvent à se reproduire dans les réservoirs, justement. Parce que le touladi, il va pondre ses œufs sur des roches, sur des hauts fonds, qui sont souvent à des profondeurs assez faibles pour que ses œufs soient bien oxygénés durant l'hiver.
Okay.
Sauf qu'évidemment, si on abaisse le niveau d'eau beaucoup au cours de l'hiver, puis au début du printemps, comme on a dit qu'on faisait avec les réservoirs, bien là, à ce moment-là, les œufs risquent de se retrouver à sec pendant l'hiver, puis ben, gelés, évidemment.
Ben oui.
Fait que ça, c'est un des enjeux pour ce qui est des niveaux d'eau là, qui est bien connu là, pour le touladi. Mais évidemment, changer le niveau d'eau d'un lac ou d'un cours d'eau drastiquement, ben, c'est sûr que ça a des conséquences en général. Mais celle-là, c'est un des exemples les plus connus.
Ben, tu sais, drastiquement, ça sonne brutal, ça veut tout dire tant qu'à moi. OK, parfait. T'as bien accompli ta mission aujourd'hui, Pierre-Étienne. On était évidemment avec Pierre-Étienne Drolet, biologiste, coordonnateur de projet également au Cobali. Merci beaucoup, Pierre-Étienne.
C'est plaisir. À la prochaine.
Oui.